Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Julienne Muzinga.
Vous suivez bien la radio Nzamba Arete Kakawe, c'est l'heure du journal de ce samedi 29 août 2026, dont voici d'abord les titres. Le Fokode célèbre 10 ans de la campagne Ndondeza et dénonce les disparitions après arrestation qui continuent d'inquiéter au Burundi et le nord-est des engagements pris en 2020 par le président Ndayishimiye. 15 organisations de la société civile dénoncent les dérives de la CVR et alertent sur les risques pour la cohésion sociale. À Gitega, les habitants dénoncent la hausse des prix des fournitures scolaires qui met les ménages sous pression. Voilà pour le sommaire de ce journal. Dans quelques instants, le développement.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois dans ce journal. Le président Évariste Ndayishimiye aurait manqué à la promesse faite au Burundi lors de sa campagne électorale de 2020, au cours de laquelle il s'était engagé à renforcer la lutte contre les violations des droits humains et à sanctionner leurs auteurs. Pourtant, le nombre de personnes portées disparues après leur arrestation continue d'augmenter, dénonce l'organisation Fokode. Cette déclaration a été faite à l'occasion du 10e anniversaire de la campagne Ndondeza, lancée par Fokode pour documenter et suivre les cas des personnes arrêtées par les autorités burundaises, puis portées disparues. Écoutons Pacifique Nina Azoué, président de Fokode.
Des cérémonies qui ont eu lieu à Erstade de la province de Liège en Belgique, en présence de plusieurs responsables d'organisations de la société civile burundaise, de certains acteurs politiques, mais aussi de plusieurs Burundais résidant en Belgique et dans les environs. Au cours de ces cérémonies, le Fokode, la Ligue ITK, King Murundi Freedom ont pu démontrer avec des chiffres à l'appui que les violations de droits humains, et spécialement les cas de disparition forcée, ont explosé sous le régime du président Évariste Ndayishimiye. Il a été considéré qu'il s'agit d'une trahison parce que le président n'a pas respecté ses promesses électorales de 2020. Ndayishimiye avait promis de renforcer, d'améliorer la situation des droits humains au Burundi, mais aussi de sanctionner les auteurs des violations des droits de l'homme au Burundi. Hélas, on constate la multiplication chaque année des cas de disparition forcée dans une totale impunité. Parfois, certains corps qui n'avaient même pas le droit d'arrêter des populations civiles ont été gravement impliqués dans les enlèvements suivis de disparitions forcées. Ici, nous avons notamment souligné le cas du renseignement militaire qui, en 2021, a joué un rôle primordial dans les enlèvements et les disparitions forcées et qui continue à jouer ce rôle même présentement. Il a été également question d'exprimer les inquiétudes de la multiplication des disparitions forcées cette année à la veille des élections de 2027, mais aussi dans cette situation où on parle du renforcement des mouvements rebelles burundais.
Pacifique Nina Azoué poursuit en affirmant que les familles des personnes portées disparues vivent dans la douleur et l'inquiétude, alors que le gouvernement continue de nier l'existence de telles violations au Burundi. Écoutons-le à nouveau.
Il a été aussi le président de la PRODH, Pierre Claver Mbonimpa, comme un sage, comme quelqu'un de plus âgé, a aussi eu l'occasion de comparer le phénomène de disparition forcée au cours des différents régimes qui ont existé au Burundi depuis l'indépendance. Il a souligné que si le phénomène de disparition forcée a existé à certains moments dans les régimes précédents, c'était notamment dans des moments de crise. Mais en dehors des moments de crise, le phénomène de disparition forcée n'existait pas. Il a alors souligné que ce qui est bizarre avec le régime du CNDD-FDD depuis 2015, il n'y a pas de répit. Il y a des enlèvements et des disparitions forcées chaque année, à tout moment. Les services secrets burundais s'adonnent à ce genre de pratiques et à ces crimes extrêmement graves. Le représentant de l'organisation des familles des victimes de disparitions forcées, Abba Chubarihe, a exprimé sa douleur. Elle a dit, la vice-présidente de l'organisation a dit que cet événement du Fokodé, c'était le seul moment de deuil qui pourrait être considéré comme officiel dans un contexte où le régime ne permet pas aux familles des victimes de s'exprimer, d'organiser un deuil et même de demander des informations sur les leurs qui ont été enlevées ou arrêtées par les services secrets burundais. Il a demandé au président Ndayishimiye, aux autorités burundaises, de changer cette situation qui affecte gravement, psychologiquement, émotionnellement, les familles des victimes. On a également eu l'occasion d'écouter le représentant de l'organisation CAVIB qui s'est exprimé sur les possibilités de mécanismes internationaux ou des instances internationales qui peuvent être saisies sur les cas de disparition forcée. Il a également souligné que ce genre de mécanismes peuvent sanctionner de hautes autorités, mais que nous avons besoin au Burundi d'une véritable justice qui sanctionne tous les auteurs de ces crimes et qui permet d'éviter la continuité de ce phénomène. Il est important de rappeler que cet événement ou cette célébration est organisée à la veille de la Journée internationale des victimes de disparitions forcées.
Par ailleurs, 15 organisations de la société civile burundaise viennent de sortir un mémorandum où elles se disent fortement indignées des activités de la Commission Vérité et Réconciliation qui sont de nature à compromettre la cohésion sociale et risquent de plonger le pays dans une crise identitaire grave. Audace Abdelimana, chargée des projets au sein du Force, que une des organisations signataires de ce mémorandum regrette que l'actuel TVR a dérapé de sa mission. Suivez.
Le mandat de la TVR a été élargi au traitement des contentieux fonciers, y compris dans le traitement des dossiers auparavant traités par la CNTB, la Commission nationale des terres et autres biens, qui est estimée à plus ou moins 35 000 dossiers. Depuis lors, que ce soit dans ce travail de mémoire, que ce soit dans son travail de gestion des contentieux fonciers, la TVR ne cesse de faire preuve d'une structure pratiquement étatique, même si c'est appelé une commission indépendante. Et cela s'observe notamment à travers certains indices précurseurs d'une situation inquiétante. C'est notamment dans l'acharnement à qualifier les massacres de 1972 constituant pour la TVR comme constituant un crime de génocide, et que la CVR d'ailleurs n'en a pas la prérogative, c'est un crime de génocide contre les Hutus, en faisant fi aux autres massacres perpétrés au Burundi, y compris ceux de 1993, que les Nations Unies avaient d'ailleurs enquêté sur ce cas, et qu'un rapport est disponible. La CVR est donc devenue pratiquement un véritable instrument du parti au pouvoir, pour diviser la mémoire des Burundais, meurtri par ces différentes atrocités commises à plusieurs reprises, qualifiées de massacres cycliques. S'acharner à rendre des décisions arbitraires dans la gestion des contentieux fonciers, des décisions unilatérales et sans possibilité de recours, n'est qu'une violation flagrante de la Constitution qui précise que la justice est rendue par les causes des tribunaux sur tout le territoire national au nom du peuple burundais. C'est également une violation du droit de tout citoyen à exercer son droit de recours devant les juridictions, et cela prouve à suffisance que la CDR s'est mise au-delà de toutes les structures étatiques de la juridiction burundaise, etc. Et pour faire bref, on considérait qu'en aucun cas une commission ne peut jamais se substituer aux causes des tribunaux, encore moins aux structures étatiques, pour rendre justice.
Inzamba.
Pour la suite de ce journal, les habitants de la commune de Gitega dans la province de Gitega se plaignent de la hausse des prix des fournitures scolaires. Ils indiquent que cette augmentation intervient alors qu'ils se préparent également pour la saison culturelle A, ce qui rend difficile la scolarisation de leurs enfants dans un contexte où le coût de la vie ne cesse d'augmenter. On fait le point avec Jean-Baptiste Villera.
Selon les informations recueillies auprès de ces citoyens, ils disent qu'ils traversent une période particulièrement difficile à l'approche de la nouvelle année scolaire. Ils indiquent également que les prix des fournitures scolaires ont augmenté de 1 000 à 5 000 francs selon le type de matériel. Ils estiment que ces hausses représentent une lourde charge pour les familles à faible revenu, d'autant plus qu'elles doivent également se préparer pour la prochaine saison culturelle A.
Cette année, la rentrée scolaire nous préoccupe beaucoup à les hausses des prix de fournitures et uniformes scolaires, des cahiers, des sacs et autres fournitures scolaires coûtent désormais plus cher que l'année dernière. Par exemple, un cahier de 100 pages qui coûtait 3 000 francs coûte aujourd'hui 3 500. Les uniformes scolaires ont également augmenté de prix. Pour certains enfants, un parent doit dépenser entre 35 000 et 40 000 francs pour réussir toutes les fournitures nécessaires. Pour nous, les parents, surtout ceux qui vivent de l'agriculture, c'est un lourd fardeau, d'autant plus que nous devons également nous préparer pour nous, les parents, surtout ceux qui vivent de l'agriculture. C'est un lourd fardeau, d'autant plus que nous devons également nous préparer pour la saison agricole. Ah, il faut acheter des semences, payer des mêmes devres agricoles et subvenir aux autres besoins de la famille. Avec la hausse continue des prix, il devient donc très difficile de réunir les moyens nécessaires pour faire face à toutes ces dépenses en même temps.
Ces citoyens demandent donc que des mesures soient prises afin que les fournitures et les uniformes scolaires restent à des prix abordables pour les familles à faible revenu.
De Gitega à Rutana, les habitants du quartier Mugembe dans la commune Rutana, province de Wurunga, s'inquiètent de la pénurie d'eau qui sévit dans leur quartier. Ils disent vivre cette situation depuis plus de 2 mois et craignent notamment l'apparition des maladies liées au manque d'hygiène. Ils appellent à une intervention urgente pour trouver une solution. Pied Garungu nous fait le point.
Selon ces habitants de Mugembe, l'accès à l'eau est devenu un véritable défi pour eux. Pour s'approvisionner, certains doivent parcourir de longues distances et y consacrer beaucoup de temps. Ceux qui disposent de moyens financiers préfèrent faire appel à des personnes qui transportent l'eau à vélo, moyennant au moins
2 500 francs burundais.
Ici à Mugembe, nous avons eu de l'eau pour la dernière fois au début du mois de juin. Depuis, nous n'avons plus d'eau potable à utiliser dans nos maisons. C'est très difficile de vivre sans eau, car elle est indispensable au quotidien, pour boire, cuisiner, se laver et faire le ménage. Nous sommes obligés d'aller chercher de l'eau sur la colline de Nyaruganda. Là-bas aussi, l'eau est rationnée, car il n'y a qu'une seule machine pour la pomper. Le problème, c'est que lorsque nous n'avons pas d'électricité, l'eau n'arrive pas chez nous. Pourtant, à Nyaruganda, ils ont de l'eau même lorsqu'il n'y a pas d'électricité. Aller chercher de l'eau aussi loin est très fatigant et prend beaucoup de temps. Les femmes et les enfants sont particulièrement concernés car ces déplacements les empêchent de consacrer suffisamment de temps à leurs activités quotidiennes. Sinon, il faut payer quelqu'un pour nous apporter de l'eau. Ceux qui ont des vélos demandent 2500 francs par bidon. Pour les familles qui ont peu de moyens, c'est beaucoup d'argent, surtout lorsqu'il faut acheter de l'eau tous les jours. Nous demandons qu'on nous fournisse de l'électricité. Cela permettrait de faire fonctionner la machine qui pompe l'eau et de l'acheminer jusqu'à nos maisons. Nous vivons dans des conditions très difficiles, sans eau ni électricité. Nous craignons aussi que le manque d'eau et d'hygiène n'entraîne bientôt l'apparition de maladies.
In quale di fatigue questo curic, di te, oui, si te crede te amare.
Ces habitants redoutent que cette pénurie ne finisse par affecter leur santé. Ils demandent à la régie des eaux de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'approvisionnement en eau avant que la situation ne s'aggrave.
Comme chaque samedi, c'est le moment de parcourir les principaux articles publiés par différents journaux sur le Burundi. Cette revue de presse vous est présentée par Bertrand Ngendakudio.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de notre revue de presse consacrée à l'actualité burundaise. On ouvre cette revue de presse avec SOS Média Burundi qui s'inquiète de la multiplication des morts violentes et des cas présumés de justice populaire dans la province de Gitega. 4 décès ont été enregistrés en 2 jours dans des circonstances différentes. Parmi les victimes, un homme Nepomsen Nakarutimana aurait été battu à mort par les habitants qui le soupçonnait d'avoir volé des lapins. 3 personnes ont été arrêtées. Un bébé a également été retrouvé mort dans une vallée, tandis que 2 autres décès ont été signalés à Bugendana. Ces événements relancent les inquiétudes sur les violences et la justice populaire. Les défenseurs des droits humains demandent des enquêtes indépendantes et le respect du droit à la vie et à un procès équitable. À l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027, Burundi s'intéresse aux dépenses des parents pour les fournitures scolaires. Cahiers, uniformes et cartables sont disponibles, mais leur prix inquiète les familles. Un cahier de 100 feuilles coûte entre 2500 et 3500 francs burundais. L'uniforme kaki peut atteindre 40 000 francs et le cartable jusqu'à 80 000 francs. Pour les ménages ayant plusieurs enfants scolarisés, ces dépenses représentent une lourde charge à quelques semaines de la rentrée. De son côté, Iwachu analyse l'exécution du budget de l'État pour 2025-2026 et les prévisions pour 2026-2027. Le journal relève un écart d'environ 1,448 milliards de francs burundais dans le budget 2025-2026, notamment en raison de la faible mobilisation des recettes non fiscales et des dons. Pour 2026-2027, les recettes sont estimées à 6,347 milliards de francs burundais contre 6,735 milliards de dépenses. Watch souligne ainsi la forte dépendance du budget aux recettes fiscales et au financement extérieur. Nous restons dans le domaine humanitaire avec SOS Média Burundi qui revient sur les difficultés liées au retour des réfugiés burundais depuis la Tanzanie. Près de 100 000 personnes seraient déjà rentrées dans les provinces de Bumuza et Gitega après la fermeture des camps d'Onduta et de Nyarugusu. Mais la réintégration reste difficile. Les rapatriés doivent retrouver des terres, des logements et des moyens de subsistance. Certains, confrontés à la précarité, auraient même repris le chemin de l'exil vers le Rwanda et l'Ouganda. Les acteurs de la réintégration appellent donc à renforcer l'accompagnement économique et social des familles retournées. Enfin, Iwachu alerte sur la dégradation des conditions de vie de plus de 50 000 réfugiés congolais du camp de Busuma dans la province de Bumuza. Faim, manque d'abri, froid, insuffisance d'eau, des médicaments et d'eau sanitaire, des conditions de vie restent très difficiles. L'aide alimentaire et financière aurait également diminué. Certains réfugiés demandent désormais à rentrer en République démocratique du Congo, malgré les pistes sécuritaires. Le RICR indique que près de 13 000 réfugiés ont déjà été rapatriés depuis avril. Mais les besoins restent importants. Sur les 33 millions de dollars nécessaires, seulement environ 30% auraient été mobilisés. C'est sur cette note que s'achève notre revue de presse. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle édition.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Et voilà, c'est par cette revue de presse que prend fin notre édition. Vous étiez avec Julienne Muzinga au micro. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de l'avoir suivi. Au revoir.